Bienvenue sur cet épisode 0 du podcast de Kifim. Épisode 0 ou épisode test, j'ai oublié le mot que je voulais utiliser, ça commence mal. Pilote, c'est ça, merci Julien. Podcast Kifim, donc qui a pour but de coller à l'univers du site kifim.fr et de vous faire découvrir nos coups de cœur ou pas de films, de séries, de livres ou de jeux de société. Donc pour ça, on va vous en présenter, on donnera un petit peu nos avis et on partagera sur le sujet. Petit tour de table rapide des gens qui sont avec nous ce soir pour présenter ces différents éléments. Nous avons Glenn. Glenn, tu vas nous présenter un film.
Salut. Ouais, je vais vous présenter Ready Player One.
Très bien. Julien nous présentera une série.
Salut, et moi je vais vous présenter Altered Carbon.
Christophe nous présentera un jeu de société.
Bonjour, moi je vais présenter le 7ème continent.
Et nous terminerons à nouveau par Glenn, qui nous parlera d'un livre.
D'une BD, ouais, Tyler Cross, le troisième opus.
Ça compte, ça, comme livre?
Ouais, oui, ça compte. BD, livre, essai, poème, on n'est pas sectaire, sur, ni sur les livres, ni sur les séries, ni sur rien du tout. Donc, Glenn, on ouvre le bal avec toi, tu nous présentes donc Ready Player One, pardon.
Voilà, Ready Player One, encore à l'affiche. C'est le retour du tonton, hein, Steven Spielberg, 71 ans quand même, 71 ans. Il nous fait encore rêver. Très rapidement, l'histoire de Ready Player One, ça se passe en 2045, donc ça fait déjà partie de mes coups de cœur parce qu'on est dans l'anticipation. J'espère qu'on apprendra au fur et à mesure que l'anticipation, c'est un des trucs qui me fait bien kiffer. Donc on est en 2045, et en 2045, un grand génie de l'informatique a créé l'Oasis, un monde virtuel dans lequel tout le monde peut aller vivre une autre vie, caché derrière un avatar qu'il se crée, donc un monde complètement fou.
Raconte pas tout, hein, je l'ai pas vu.
Non, il y aura no spoil, ça fait partie des trucs. Et donc le film débute comme ça sur cet univers où cette oasis existe déjà et quasiment tout le monde vit une double vie parce que faut dire un peu que dans le monde réel c'est on sait pas trop si on est entre l'utopie et la dystopie parce que
attends dystopie
c'est quoi
la dystopie la dystopie c'est l'inverse de l'utopie, c'est-à-dire que c'est un monde fantasmé dans l'avenir mais qui se passe un peu mal quoi, tu vois, où c'est pas non plus c'est pas la grosse fête quoi.
Sachant que de base le mec qui a inventé le principe d'utopie est mort guillotiné.
Ça, c'est bon, ça.
Donc, de base, entre dystopie et utopie, y a-t-il une vraie différence?
Alors, c'est une des premières choses voilà, que j'ai bien aimé dans le film, c'est leur vision du monde en 2045, qui est un peu une grosse. On sait par les riches et les pauvres, et puis, tous ceux qu'on va aimer et suivre, évidemment, sont plutôt dans les sales quartiers. Il y a déjà une belle vision, là, avec des sortes de mobilhomes empilés, qu'on voit tout de suite, hein, qu'on voit dans les bandes annonces, donc, no spoil. Et puis, on va suivre, donc, l'aventure de Wade, hein, un Jones des banlieues. Et on commence le film quand le créateur de cette oasis décède et il laisse derrière lui en fait un message, une sorte de défi un peu à tous les gens de l'oasis en disant qu'il a caché un Easter egg. Alors, Easter egg pour tout le monde sait, hein, les gens qui vont nous écouter savent ce que c'est quelque chose de caché,
un œuf de Pâques,
le plus souvent dans un jeu vidéo. Et qu'il faut essayer de trouver. Et donc, si tu arrives à trouver cet Easter egg dans le monde virtuel, tu décroches la timbale, c'est-à-dire que tu deviens le grand patron de l'Oasis, quoi. Et autant te dire que, vu que tu as à peu près 500 milliards de joueurs sur le truc, c'est un peu l'Eldorado. Et donc, alors déjà, Spielberg, rapidement maintenant, ce que j'ai aimé. On sent l'amoureux du cinéma, gros amoureux de la pop culture, il sait encore nous parler. Alors, le film est une adaptation d'un livre de Ernest Cline qui lui fait un étalage monstre de références complètement dingues, notamment à Steven Spielberg. Et le réalisateur, lui, les a plutôt zappés, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu faire trop d'auto-références à son truc, il en a gardé quelques-unes. Il a fait plein de clins d'œil aux copains, curieusement pas trop à son gros copain de George Lucas de Star Wars, même s'il y a peut-être une petite apparition d'R2-D2 quelque part, mais c'est
sûrement caché,
c'est Star Trek qui remporte qui passait devant quoi, étonnamment. Ouais. Donc il s'adresse, on entend parler aussi du cube de Zemeckis, on voit une DeLorean, etc.
Kubrick aussi.
Ouais, mais alors attention, ça c'est le gros truc, il faut garder cette surprise.
C'est toi qui spoil sur le propre truc que tu ne vais pas faire spoiler quoi.
Donc c'est évidemment un film qui s'adresse d'abord aux geeks de tout poil, et vraiment de tout poil, quoi, pas les nerds, hein, les geeks, toi, moi, et puis ma mère.
Le geek culturel.
Ouais, le geek culturel.
Le,
ouais,
le gars culturé, on en parlait, le gars culturé.
On a beaucoup, beaucoup de références jeux vidéo et cinématographiques. Donc, on trouve du Gundam, du Freddy Krueger, du Lara Croft, du Duke Nukem. Il y en a pour tous les goûts.
Ouais, bien sûr.
Et on a aussi beaucoup de références aux cinéphiles, ce que j'ai le plus aimé. Et donc, les plus évidentes, c'est celui que tu as cité précédemment. mais il y a quelqu'un, un personnage au cœur du truc qu'on voit tout de suite hein, et dans la bande-annonce, c'est le géant de fer. Le géant de fer qui est aussi en VO doublé par Vin Diesel, qui était déjà le doubleur du géant de fer dans le dessin animé. Géant de fer, donc petit aparté, qui a pas connu du tout de succès à sa sortie, qui a connu un succès.
Parce que moi je ne connais pas le géant
excellent,
de fer.
C'est excellent.
Ah, c'est ça. Excellent dessin animé qui a connu ce qu'on appelle une seconde vie.
Ah, dessin animé, j'avais même pas compris.
C'est un des rares films Warner.
En DVD.
Un des rares dessins animés.
Je vous le note à voir. Sur...
Et aujourd'hui, il a une fanbase de fou. Retour vers le futur évidemment et puis il y en a des moins évidentes qui là commencent à te toucher vraiment où tu sens que le mec il sait parler aux cinéphiles par exemple dans la course de début tu vois les mecs ils passent à un moment c'est une sorte de New York fantasmé un petit complètement fou et ils passent devant un cinéma et qu'est-ce qui affiche au cinéma c'est Jack Slater 3 c'est donc le film de Schwarzy dans Last Action Hero
ouais.
On reparlera j'espère
ah oui, belle référence quoi.
J'espère qu'on reparlera ici de John McTiernan parce que c'est impossible je pense de faire un podcast un petit peu cinéma sans parler de lui et puis les bagnoles alors quand vous voyez les bagnoles bon il y a toutes celles qu'on connaît mais il y a aussi on retrouve la Batmobile de 1966 on retrouve la F1 de Pole Position, vous vous souvenez de Pole Position le dessin
oui.
Animé avec deux pilotes, une voiture rouge, une voiture bleue,
ils mettaient
un petit,
chanson,
mettaient
oui,
un petit ordinateur dedans, les ordis ouais. Se parlaient, c'était un peu
avec
Siri. Un
garçon, unifié, les deux
héros, c'était fabuleux.
Je sais pas du tout.
On a la Plymouth, oh, c'est années 80. On a la Plymouth ouais. De Christine,
milieu 80.
Ouais, on a l'intercepteur de Mad Max, enfin la course
c'est,
de
c'est
folie.
Une collection de références, ton
d'entrée du, enfin le film te met une grosse claque, mais franchement, comme t'en as rarement vu au ciné dès le départ. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà bon, l'anticipation, 2045, etc. Donc, l'Oasis, c'est une sorte de mix entre Facebook et les Sims. Et alors, grosse question que je me pose, c'est, et qu'on a le droit de se poser, quand on n'a pas encore vu le film, on est souvent, on peut trouver des réfractaires à l'image de synthèse. Et l'image de synthèse, là, moi, je dirais plutôt que
j'y reviendrai après, ouais.
C'est une solution. D'abord parce que ça t'apporte une DA, une direction artistique qui a un caractère que tu peux pas trouver dans une production plus classique. Donc là, tu as des tonalités, des couleurs complètement improbables, tu vois, des trucs que tu trouverais pas autrement. Peut-être que tu vas en reparler aussi dans Altered Carbon. Mmh. De l'action, qu'on peut pas avoir autrement, évidemment, des cascades de ouf, des incrustations complètement dingues, des décors hyper originaux, hein, la cité dortoir et tout ça. Des plans séquences que tu pourrais pas faire normalement au cinéma et donc ils participent à la diégèse du film et puis des scènes un peu loufoques, des trucs vraiment des inventions, des nouveautés quoi. C'est-à-dire, y a une scène de danse notamment dans un club, ils rentrent dans une discothèque, t'as le droit de te demander à quoi ça va ressembler les discothèques en 2045, et ben là c'est plutôt vachement bien vu, je ne spoile pas, c'est quelque chose qui m'a plutôt bien plu. Donc en conclusion voilà, je trouve Spielberg nous apporte à la fin du film une petite morale un peu carton du style bon quand même la réalité c'est quand même la vie réelle par rapport au virtuel bon plein de gens se sont engouffrés là-dedans en disant oh c'est la morale du film, pas du tout, c'est pas du tout la morale du film. La morale du film, Spielberg qui nous dit, c'est que le virtuel ça peut être super cool, faut juste faire attention à ce qu'on en fait,
c'est un outil
exactement. Peut-être qu'il y a une petite mise en garde bien vue sur faites attention à qui peut se cacher derrière un avatar dans un monde virtuel, ce qui n'est pas du tout idiot, et, évidemment. Et puis, il nous met aussi en garde sur la propension qu'on voit déjà aujourd'hui des grandes multinationales à essayer de s'accaparer un peu tout, ce qui est le cas dans le film, évidemment. Il y a les méchants, IOI, qui, à mon avis, se dit plutôt 101 hein, pour les trucs binaires. Et donc, c'est la grosse corporation qui veut s'emparer de l'Oasis pour en fait caser de la publicité partout et puis devenir encore plus riche qu'ils ne le sont quoi.
C'est très Westworld, non?
Westworld. Alors c'est un peu.
Enfin sans le côté réalité virtuelle, mais enfin.
Non, c'est plutôt alors donc merci de tirer la enfin de me lancer une ligne là-dessus.
Une perche.
Je t'aide à faire la transition.
Donc par exemple il faut pas lire les critiques de France Inter. J'adore l'émission de France Inter sur les cinéphiles. J'adore France Inter, mais là ils sont passés complètement à côté du truc. Bon bref.
Tu parles du masque et la plume.
Exactement. C'est... Non, mais là,
c'est un peu ce qu'on fait là, en fait.
Ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Donc là, ils sont ridicules, mais
tant mieux s'ils mettent les références dans une description du podcast.
S'ils nous signent derrière, c'est très bien.
Vers les films dont on parle, les répliques, les trucs dont on parle.
Donc je dirais plutôt, voilà, si vous voulez continuer à explorer pour contextualiser le truc, le clash, la collusion entre monde virtuel, monde réel, jeux vidéo notamment dans la vraie vie, je pense qu'il faut aussi regarder Scott Pilgrim versus le reste du monde. Le nouveau Jumanji que j'ai pas trouvé si nul du tout, Speed Racer et War Games et
War Games carrément.
Et d'accord. Ce que le film a, là où le film m'a vraiment fait penser à un truc, c'est Les Mondes de Ralph, le dessin animé Les Mondes de Ralph, où là aussi tu retrouves un univers où plein de tes héros se côtoient. Et en ça, ça a vraiment ressemblé au truc.
Et du coup, conclusion, tu lui mets combien
Alors conclusion, la note que j'ai mise sur Kifim, c'est 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi Bon, d'abord parce que bon, c'est toujours un peu embêtant de mettre des 10 sur 10, mais parce que l'histoire est quand même hyper convenue.
C'était de la peur.
Je pense qu'il y a un prétexte derrière, c'est-à-dire que il s'est un peu trop appuyé sur le prétexte que toute la narration du film est calquée en fait sur le jeu vidéo. C'est-à-dire, t'as une quête, il faut trouver 3 clés. Chaque fois que t'en trouves une, hop, t'as un indice pour trouver le reste, machin. Mais c'est tellement convenu et les méchants sont tellement, c'est hyper manichéen. Tout est très attendu. C'est vraiment une claque visuelle et tout ça, mais bon, ils se sont pas trop fait chier quand même sur le scénario. C'est un peu creux.
Mad Max.
C'est un peu creux.
Un peu à la Mad Max, une beauté et tout, mais ouais, pas un renouveau du genre, quoi.
Ouais, mais alors j'ai envie de dire Mad Max presque. Tu peux te dire à la fin que t'attendais pas grand chose d'un scénario, c'est-à-dire que le truc il est tellement contemplatif que ça fait. Alors que là, il cherche à raconter quelque chose.
Spielberg, il a toujours été un peu manichéen, mais le truc, moi, que j'adore chez Spielberg, parce que c'est un de mes fétiches, mais que je trouve qu'on avait perdu ces dernières années, avec ses derniers films, c'est que Spielberg, il savait faire un monde féerique.
Ah ouais.
Tout le monde avait envie de vivre dans Rencontre du Troisième Type, tout le monde avait envie de vivre E.T., tout le monde avait envie de vivre ça, quoi. Et je trouve qu'on l'avait complètement perdu. Donc après, peut-être qu'on l'a retrouvé là, j'ai pas vu le film.
Clairement le truc de l'Oasis, déjà on n'en est pas loin, quoi, on n'en est pas si loin de pouvoir tous aller se connecter à un Oasis virtuel, franchement. Quand tu vois le succès de PUBG, de Fortnite, machin, où des mecs qui sont des millions connectés simultanément sur des univers, machin, franchement on n'en est pas loin,
pour
quoi.
Un gamer, pour le coup, oui, c'est un paradis, ça.
Donc y a pas l'humour est pas exceptionnel, voilà, y a pas de...
Il y a un côté Black Mirror presque.
Black Mirror, je pense qu'on va beaucoup en parler autour de cette table, pas forcément ce soir, mais non, il y a justement pas du tout le côté Black Mirror, c'est-à-dire qu'il y a rien, qui est diabolisé, à part les gros méchants, la grosse corporation, et qu'on peut retrouver dans certains épisodes de Black Mirror. Alors il y a des...
Dans Spielberg, il y a toujours des parents.
Ouais, exactement. Le gamin, il est orphelin, et il est chez sa tante et son salaud de copain de sa tante. Que dès le début, tu as envie de voir. C'est d'ailleurs quelque chose qui est beaucoup décrié sur le film. C'est au bout de 20 minutes.
Tu sais qui est le méchant, quoi.
Non, c'est-à-dire qu'il fait tout pour que tu t'attaches au gamin. Tu vois sa vie au départ, il est débrouillard, il est machin, mais il vit chez sa tante, qui elle est cool, puis elle a un mec qu'elle subit plus qu'autre chose. Et donc, dès que la méchante grosse corporation se rend compte que Wade a chopé la première clé, il va se passer un truc pas cool. Enfin bon, c'est tout le temps que tu le lis partout. Donc, voilà. Bref,
8 sur 10, belle claque visuelle, mais
8 sur 10, pourquoi ? Parce qu'il faut le voir. Et comme on est là dans la recommandation, clairement, il y aura un avant et un après Ready Player One, quoi.
Ouais, mais moi, je l'ai pas vu non plus encore, mais clairement, je vais pas le rater dès que je pourrai avoir
l'occasion de mettre dessus. Et puis, si possible, ça se voit sur grand écran, quoi.
Ça, c'est pas un problème.
J'essaierai de le voir bientôt. Ouais. Alors, je peux me permettre une question ?
Ouais, moi, j'aurai une question aussi après.
Moi, j'ai une première question. Ne l'ayant pas vu, je me suis posé une question. Quand j'ai vu la bande-annonce avec toutes les références, le film, il est produit par Warner. Et toutes les références, c'est Warner.
Alors, non. Mais c'est vrai que Warner a lâché pas mal de références, notamment...
Mais est-ce que c'est pas une manière aussi de faire de la pub ? Comme ce qu'ils critiquent un peu
dans
le film.
C'est complètement assumé, quoi. C'est complètement assumé. C'est-à-dire que t'en as tellement... Là, je t'en ai dit un centième.
Et tu peux citer une référence qui n'est pas Warner.
Je sais pas qui n'est pas Warner. Alors attends, j'ai pas toutes les licences.
Mais... Ta question est pas simple quand même.
Non, mais c'est pas simple, mais ça me donne l'impression que Lara Croft, quelque part, c'est comme s'il avait Gundam. Été payé pour faire un peu de la pub pour Warner. Enfin, pas de la pub, mais en tout cas pour que ça soit.
Du placement de produit, d'auto-produit, quoi.
Ouais, non,
l'auto-placement de produit, les mecs, ils inventent.
Parce que tu dis référence culturelle, geek, etc., mais ça reste quand même cadré. Avec ce que eux, ils ont réussi à faire de mieux.
Je dis pas, attends, c'est pas référence culturelle, exemple, c'est référence pop culture.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils arrivent aussi quand même, moi ce qui me ferait peur, c'est que, enfin, déjà dans ce que tu nommes comme référence, à pas basculer avant, enfin, à pas arriver au moment où on dans le trop plein de références, au début c'est sympa de faire un clin d'œil là, un clin d'œil là, puis au bout d'un moment,
ouais,
bon, les gars,
un film avec les
ouais, au bout d'un moment, dérouler un peu le truc et zapper un peu ça, quoi.
Là, c'était hyper casse-gueule et c'est franchement hyper réussi, quoi, parce que, je veux dire, les Tortues Ninja, tu les vois une demi-seconde, le Joker, Batman, tu les vois une seconde, tu vois,
ils se passent. T'en as encore d'autres que t'avais pas nommé avant, donc
ouais, il y a Godzilla, il y a.
Les références, ça dépend comment tu les places, si elles sont discrètes, ça prend pas de problème.
Alors, elles sont discrètes et certaines pas du tout discrètes, mais.
Moi j'avais une autre petite question très rapide, parce que c'est ce qui me fait peur maintenant sur ce genre de film et qui peut me faire détester un film, c'est est-ce que dans les phases d'action, ça se transforme pas en bouillie de pixels, quoi.
Ah ouais, alors là c'est le truc le plus bluffant, quoi. Là,
parce qu'il y a tellement de films maintenant où en fait pendant 10 secondes de scène t'es là de fait.
Non, alors ça, alors moi c'est ce que j'appelle l'effet Bay, l'effet Michael Bay, Transformers.
Ouais, voilà, c'est typiquement Transformers.
Alors tu vois rien.
Je ne comprends rien. Non,
c'est une scène d'action.
Là c'est parfait. Là c'est juste parfait. Alors autant on peut peut-être critiquer le scénar, comment ça se déroule et tout ça machin, mais les scènes en elles-mêmes c'est impeccable. C'est vraiment impeccable.
Bon, bah, j'irai voir, c'est sûr, mais bon, j'étais pas d'accord avec toi sur les CGI. Moi, j'ai un peu de mal avec les CGI, et je pense qu'on peut faire maintenant des films modernes en mixant les deux. Par exemple, Blade Runner 2049.
CGI. Ah ouais.
Le CGI, c'est tout ce qui est généré, tout la 3D générée par ordinateur, tout ce qui est voilà.
CGI quoi.
CGI.
C'est pour ça que j'ai dit image de synthèse au début. J'avais
Blade Runner 2049, c'est un bon exemple que tu peux mixer les deux. Que ça donne quand même une patte, quelque chose d'un peu plus. Moi, j'ai un peu de mal avec les films entièrement en CGI parce que j'ai du mal à m'accrocher à une certaine réalité, j'ai du mal à rentrer dedans.
Ne dévions pas parce que alors là, on peut parler longtemps, mais
juste pour répondre à ça, tu peux aller le voir. Pourquoi ? Parce que là, c'est le sujet du film en plus.
Ouais.
Et donc, c'est une autre dimension.
Ouais. On conclut là-dessus, je pense que de toute façon,
8 sur 10.
Glenn l'a vu, on est tous d'accord pour dire qu'on veut le voir.
Oui.
Je pense que là-dessus, la vie est unanime, tu nous convaincs de toute façon plus ou moins, je pense.
Un truc important, peut-être, on en reparlera, mais c'est les notes, moi que jeune, c'est pas une note de cinéphile, c'est pas une note de oui, la photo ouais, est magnifique, le truc. C'est une note de kiffer, kiffer, la kiff team, voilà, c'est une note de kiff. Et devant le cinéma, pendant 2 heures, j'ai kiffé, quoi.
Ouais, non, mais moi je le comprends comme ça aussi, ouais.
On n'est pas Canal B.
Petit tour de table rapide, est-ce que Christophe, Julien, vous avez d'autres films qui vous ont marqué ces derniers temps?
Ces derniers temps, j'avais des films sortis il y a moins d'un an.
Ah non, pas du tout, que t'as vu, là, t'as vu un truc et tout d'un coup de cœur, tu te dis, il faut au moins que je le nomme. Attends, ouais. Attends, Glenn.
Un film que j'ai vu deux fois en un an, je t'en ai parlé l'autre jour, un film science-fiction, Premier Contact.
Ah oui, bah alors là, on sera.
Alors,
on s'accorde déjà là-dessus, quoi.
Alors, moi, je suis très exigeant en science-fiction, et pour le coup, je peux être assez cinéphile. Pour moi, mon maître absolu, c'est Kubrick, justement. Donc, on compare tous les films de science-fiction à 2001. Et Premier Contact, justement, Denis Villeneuve,
de table, hein.
Qui a fait le dernier Blade Runner. Oui, je sais, ok.
Ouais,
c'était pour s'entraîner à la science-fiction, et je trouve que pour le coup, pour s'entraîner, il fait un coup de maître.
De toute façon, là pour le coup, ouais. on avait cette idée dans ce podcast de faire un tour de table, un peu coup de cœur de la rédac. Je pense que sur Premier Contact, on aurait pu faire ça.
Oui.
On se serait tous accordés là-dessus. Ouais.
Oui.
Julien ?
Premier Contact, qui est
la
grosse claque moi, de mes dernières années. Il n'y a pas que Premier Contact. Je suis en train de chercher le nom d'un film, j'ai un trou de mémoire, le film sur l'enquête.
Faut qu'on ait nos propres comptes qui filment sous les yeux.
L'enquête journalistique sur les
Spotlight.
Spotlight, merci. Voilà, Spotlight, qui pour moi, au niveau des
acteurs, c'était facile.
La direction d'acteurs, ouais. Des acteurs, de la construction du film, mais surtout vraiment tous les acteurs, c'est moi ma plus grosse claque.
Ce qui fait d'ailleurs que j'ai pensé à toi, as-tu regardé Pentagon Papers?
Non, justement, un Spielberg.
Ok, d'accord. Non, mais parce que non, pour le coup, la réponse m'aurait intéressé parce que c'est vrai que je me suis mis qu'il fallait que je le voie aussi un de ces quatre.
Celui-là,
j'ai vu. Justement.
Et j'ai pensé à toi.
Et j'ai bien aimé.
D'accord, ok. Bon,
Spotlight, moi, c'est vraiment grosse claque parce que je trouve que tous les acteurs dedans sont magnifiquement dirigés, sont monstrueux et vraiment, même jusqu'au deuxième, troisième, quatrième rôle. Quoi.
Ok, d'accord. Et Glenn, tu voulais renommer un autre film, un autre coup de cœur
Non, mais dans les bons films, ouais, Le Crime de l'Orient Express, j'ai adoré.
Ah bah j'ai pas pas plus que ça, moi.
Moi non plus.
Ouais. Moi ça m'a laissé relativement indifférent. Je sais plus combien je lui ai mis, mais pas des masses. 6 ou 7, je dirais, à tout péter.
Ouais, c'est pas...
Non, je suis resté sur ma faim, sur le truc. Ouais. Sachant que après de base, j'ai jamais été un grand fan d'Agatha Christie.
Autour d'une thématique polar.
Ouais. Mais ouais, non, moi, pas coup de cœur.
Je pense que dans les coups de cœur de pas mal ici autour de la table, il y aura Blade Runner 2049.
Carrément, ouais. Je suis certain, j'adore.
Parce que c'était la suite casse-gueule et Villeneuve a été monstrueux. Il y a des petits défauts dans le film.
Il rate pas grand chose.
Je pense qu'on aura, ouais, on aura l'occasion, oui, on aura l'occasion d'en reparler, quoi.
Je trouve qu'il rate des choses, justement.
Ok.
Bon. Je trouve qu'il a.
Bah, moi, je réponds pas à ma propre question, parce que j'ai pas eu, là, de
coup de cœur, ça va être. Three Billboards. Énorme coup de cœur.
Oui, pas lu. Ah, pas vu.
Et Guillaume Triche, en fait, il va sur son profil.
Ouais, bah, carrément. Mais j'ai un profil qui filme qui a jour, donc je regarde si vite fait j'ai mis un film en coup de cœur ces derniers temps, et c'est pas le cas.
Baby Boss.
Donc je.
Trop rien, toi.
Ouais, mais nous, trop rien, c'était pas ces derniers temps, c'était il y a 2 ans. Les gros coups de cœur il y a 2 ans, mais on en reparlera.
Il y a l'anti-coup de cœur aussi.
Bon, le dernier que j'ai noté, c'est Baywatch. Je pensais que j'allais pas le regarder.
Non, mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu ça, mais ce qui m'inquiète, c'est que tu l'es fait, en fait.
Non, mais je me suis fendu la gueule. Et pourtant, je te jure, je déteste ce genre de truc normalement. Et là, je trouve que c'est super bien.
Ouais, messieurs, je vous coupe, allez. On passe aux séries.
Allez,
on fait une soirée Baywatch.
Ok.
Tu me présentes ?
Ouais, donc on remercie Glenn pour la présentation et l'envie qu'il nous a donné de regarder Ready Player One en film. Et donc, bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je parle pour moi. On passe à Julien. Julien, donc, il va nous parler d'Altered Carbon et je pense que là, il va y avoir débat aussi.
Ouais, je pense que tu satures un peu.
C'est trop facile. Ouais, mais c'est moi, j'ai une belle voix qui porte bien.
Ouais, mais justement, tu devrais aller.
C'est possible. Alors, vos gueules, donc, Altered Carbon. Altered Carbon, donc c'est une série Netflix. C'est non, pour le coup, j'ai pas de problème avec ça. Moi.
Un autre débat au moment du festival de Cannes.
Pour faire la synopsis rapide, dans un futur assez lointain quand même, où en fait les humains peuvent décéder et leurs âmes, leurs âmes rapatriées dans d'autres corps. On a le héros de la série qui est donc ressuscité entre guillemets dans un corps 250 ans après sa mort pour enquêter sur un meurtre. Voilà, je pense que je vais vous dire que ça de la série, du synopsis, c'est suffisant. Tout d'abord, les premières choses que j'ai aimées, je trouve que l'univers d'Altered Carbon, qui est basé sur un bouquin, est assez conséquent. Il y a pas mal de choses auxquelles se raccrocher. Il y a vraiment des bons trucs. J'ai aimé que on sent que la production, ils ont essayé de se prendre la tête un peu pour faire quelque chose de qualitatif, de chiader un peu. On sent que la photo a été travaillée. On sent tout ça, mais du coup ça m'amène rapidement à ce que j'ai pas aimé avec Altered Carbon. La première chose, c'est que j'ai été claustro, moi, dans cette série. Pourtant, cette série se passe dans plein d'endroits, pas forcément enfermés, mais à chaque fois que...
T'as pas commencé la Casa de Papel, d'accord.
Hein ?
T'as pas commencé la Casa de Papel.
Non, ouais. non, mais claustro, je m'en fous, moi, qu'une série se passe dans un huis clos, dans une pièce, tout comme ça, j'ai aucun problème avec Cube, par exemple, le film. Altered Carbon, en fait, je suis claustro parce qu'ils essayent de faire des grands décors, mais tu sens bien que c'est tourné en studio, et au bout d'un moment, quand je le sens trop, ça m'agace un peu. Ça m'agace même beaucoup, quoi. Et ça pourrait ne pas m'agacer si je pouvais me raccrocher à d'autres choses qui me plairaient. Le problème, c'est qu'avec Altered Carbon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le reste aussi. J'ai eu énormément de problèmes avec les acteurs. Je trouve qu'ils sont... Alors, je vais peut-être pas leur jeter la pierre trop. C'est possible que les acteurs soient mauvais. C'est aussi possible qu'ils étaient...
C'est l'endroit, le...
Non, mais c'est possible qu'ils... Non, je veux dire qu'il y a une alternative, c'est que c'est possible qu'ils aient été mal dirigés aussi. Je mets quand même une astérix à ça. C'est par exemple un des personnages censé être le méchant, Dimitri. Il y a un des acteurs qui le joue, il est juste absolument ridicule, quoi. Le mec a une tête de méchant, il a une crête décolorée, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il ne lui manque plus que se balader avec un panneau au-dessus de lui marqué « Je suis un méchant », quoi.
Un peu le propre de tous les rôles principaux de cette série, quoi.
Voilà, c'est un peu trop caricatural pour moi, quoi. Voilà, j'ai eu, enfin, du coup, je suis désolé, je vais la descendre, mais du coup, je l'ai pas aimé. Je lui ai mis 6 sur Kifim parce que j'ai reconnu les efforts, mais je l'ai pas aimé. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les dialogues qui sont verbeux, mais sans talent, qui sont littéraires, mais sans talent. Quand j'avais commencé à la regarder, j'avais commencé à dire à Guillaume, tu verras, tu la regarderas, mais dans les premiers épisodes, il y a une voix off pendant toute la série, la voix off du personnage principal qui s'appelle Kovacs. La voix off est juste insupportable parce qu'elle n'arrête pas de nous déballer
Tu l'avais en VO ?
Ouais, elle n'arrête pas de nous déballer des poncifs littéraires, enfin mielleux, chiants, qui ont aucun intérêt. Je sais pas, j'ai eu l'impression d'une série qui essayait de faire de la qualité, et je vais être un peu méchant, mais sans le talent ou sans le petit truc en plus qui fait que ça marche, quoi. Pour moi, c'est un peu trop fabriqué, un peu trop. Pas assez naturel, pas assez. Talentueux, c'est peut-être méchant de dire ça, mais c'est ce que j'ai ressenti après avoir regardé cette série. Tant et si bien que j'ai poussé quand même pas loin, parce que je pense que je suis arrivé à l'épisode 7 ou 8, et j'ai pas réussi à finir parce que la série me fatiguait vraiment. Je trouvais que ça n'avançait pas. Voilà, pour mon avis sur Altered Carbon.
Je pense que je vais demander à Glenn de réagir à chaud parce que je sais qu'il ne partage pas cet avis sur toutes les lignes.
Alors, je partage beaucoup de choses, c'est-à-dire. Les acteurs sont nullissimes. Ouais. Non mais non seulement ils sont nullissimes, mais ils savent pas jouer et ils sont pas à leur place. C'est pas la bonne gueule pour le bon rôle.
Je pense qu'il y a aussi la mauvaise direction.
Kovacs, bon, j'ai trouvé.
Personnellement, même Kovacs, il m'a saoulé. Hein, mais bonjour.
Les dialogues sont pourris. C'est maintenant que tu le dis que je suis d'accord avec toi de ce côté claustro, la machin, il y a quelque chose qui marche pas. C'est vrai, ils ont créé tout un univers et pourtant.
Et tu te sens en studio tout le temps. T'as tout le temps l'impression d'être dans un studio de tournage.
C'est les lumières qui sont néons.
Mais il y a un truc.
Par contre,
la photo, comme tu dis, je trouvais ça, mais j'ai adoré. J'ai adoré la DA. Et ce côté qui est toute une partie des décors fabriqués.
Ouais.
Ça m'a complètement rappelé du Total Recall original là. J'ai eu l'impression qu'ils avaient pris les décors de Total Recall, c'est quand ils arrivent là sur ouais. Mars machin, et qu'ils t'avaient mis les néons et tout du Blade Runner truc ouais. Et un peu punk et tout ça là. Je trouvais ça, moi ça m'a bien saucé. J'ai saucé parce que j'ai deux enfants hein, donc. Cela dit, c'est vrai que j'aurais largement pu m'arrêter avant. Bon, je me suis laissé aller, bon, je suis allé jusqu'au bout. C'est une erreur.
Pourtant, la dernière fois qu'on en a parlé, tu m'avais semblé plus enthousiaste que ça, même
parce que visuellement, je me suis laissé porter. Clairement, visuellement, je me suis laissé porter. Je me demandais d'épisode en épisode ce qu'il allait pouvoir nous montrer. Par exemple, une fois que t'as vu la ville, le truc, le machin qui est sympa, bon, le grand loft, de la petite nana, c'est sympa. Par contre, j'ai mis une bonne note, c'est ça ?
Non, c'est Glenn qui a mis 5 et pas 6.
Non, Julien, ah,
Julien,
j'ai dit que j'ai mis 6, j'ai mis 5 en fait.
Et il y a aussi, par exemple, tu vois, comment il montre le luxe dans la part de Dimitri, là, le grand penthouse de Dimitri, c'est.
Le Mathusalem, tu veux dire, donc c'est pas Dimitri, c'est juste le Mathusalem, quoi. Celui qui recrute Kovacs pour l'enquête. Ouais.
Ça aussi, c'est pas mal. Il y a quelques bonnes choses comme ça. Et en fait, t'as l'impression que. Ils ont mis plein de pognon dans les mains de pas des bonnes personnes.
Alors moi, c'est marrant parce qu'il y a un autre aspect qui me gêne dans cette série que vous évoquez, même pas tellement, qui moi m'a gavé. En fait, on a l'impression qu'ils ont, ils savent pas sur quel pied danser. Un coup, ils hésitent entre la série d'action, certes futuriste, mais voilà, avec des personnages en plus des acteurs qui sont quand même typés gros balèze baston quoi. Et ils vont prendre ces mecs-là, on va se taper 2-3 épisodes d'affilée où les mecs vont faire que réfléchir et nous faire part de toutes leurs petites pensées personnelles, pseudo-psychopathologiques, Et en fait, t'as envie de leur dire, en fait, ta gueule. Je veux dire, t'es là, t'as ta montagne de muscles, il y a des méchants partout, tu leur tapes dans la gueule et tu nous en donnes pour notre argent, tu vois, quelque part, on est là pour ça, quoi. Ou alors tu fais le choix d'une série futuriste machin avec de la réflexion, mais enfin tu mets des acteurs qui sont crédibles dans ce rôle-là. Là, ils ont pris les deux, ils ont essayé de les. Alors, on pourrait dire tiens on va mélanger les deux, on va faire un truc un peu sympa, mais ils se sont complètement ratés quoi. Parce que du coup, moi je suis bon public, tu me mets un navet sur le grand écran, je vais jusqu'à la fin du film, j'arrête pas avant la fin et je m'endors pas. Altered Carbon, je me suis endormi. Parce que j'en peux plus de voir des montagnes de muscles. Parler philosophie, quoi. Il y a un moment, je suis désolé, je suis pas là pour ça, quoi.
En plus, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais le problème, c'est que c'est vraiment de la philosophie de comptoir de PMU, quoi.
Ouais, c'est raté, c'est complètement raté.
Il y a un truc à sauver, c'est l'IA de l'hôtel dans lequel réside.
C'est peut-être le seul, j'y pensais, peut-être le seul qui a sauvé.
Ouais. Il est à sauver dans son rôle, l'acteur, le personnage, l'idée qu'un hôtel puisse être une intelligence artificielle, avec son système d'autodéfense qui défonce tout et tout ça. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder les trois premiers épisodes. Voilà. premier épisode, tu te fais une idée. Après, tu continues ou pas en fonction de ton avis, quoi.
Ouais, ouais, je suis. Moi, je rejoins effectivement le personnage de l'IA est très bon.
Sur ce que tu disais, sur en effet, on a l'impression que c'est il y a eu beaucoup d'argent donné à des gens qui n'ont pas forcément le talent pour faire. C'est un peu ça, quoi.
Netflix, ils essayent, quoi, quand même.
Oui, alors, question simplement, en fait, pour trancher, on va bien voir l'avis que vous en avez réellement. Est-ce que vous allez tenter la saison 2?
Moi, je regarderai au moins le premier épisode.
Moi, non.
Moi, j'ai pas vu la une.
Et est-ce que tu vas la regarder suite aux différentes critiques émises ce soir?
Avant, j'avais envie, et là, je suis un peu moins intéressé.
C'est pareil hein, dans les séries, c'est que
il y a
d'autres trucs à regarder avant.
Ouais, bah, il y en a beaucoup. Ouais.
Mais comme il faut rattraper Pedro maintenant,
j'essaie de finir un puzzle d'abord, donc je peux pas tout faire.
Allez. Malheureusement, on gère pas les puzzles sur Kifilm, donc c'est un sujet qu'on abordera pas ce soir. Petit tour de table rapide, d'autres séries en ce moment qui, par contre, valent carrément le détour.
Alors, pour rebondir sur Altered Carbon, univers futuriste, truc machin, j'avais un tout petit peu décroché la première saison.
The Expanse.
The Expanse. J'ai rattrapé la deuxième là.
The Expanse, c'est mieux. Il y a des côtés de cheap dans The Expanse, mais tu sens que c'est
Mais il y a quand même.
Je me suis battu avec Julien pour s'y remettre.
Sur la moyenne, les mecs, elle passe. C'est une série qui passe sous le radar.
Ouais.
Et pourtant.
C'est beaucoup. Non, mais moi, je sais que j'ai poussé Julien pour qu'il s'y remette parce que moi, je suis très convaincu par The Expanse.
Et puis,
le côté cheap me gêne pas. C'est plus. Pour moi, c'est plus quelque part minimaliste.
Vous pouvez pas les finir, mais en effet, il y a un côté cheap. Mais par contre, la série est mieux faite, mieux réalisée. Du coup, ça marche beaucoup mieux. T'as plus de choses.
Ils se prennent pas la tête.
Et puis il y a un univers, il y a un univers de fou, il y a un univers politique, il y a un univers géopolitique.
Ils ont même simplifié, vous, non ? Parce que la première saison était un peu trop, justement, ça partait un peu dans tous les sens.
Je pense qu'ils avaient besoin de poser les bases, quoi, pour que tu comprennes les trucs. Mais le côté, il y a une banlieue dans l'espace.
Ouais.
Putain, c'était bien vu, quoi.
Je suis d'accord avec ça. Ouais. Moi, je vais rebondir aussi sur une autre série. Alors du coup, qui a strictement rien à voir, mais je suis dessus en ce moment et elle fait débat également. Mais pour moi, c'est gros coup de cœur. C'est La Casa des Papel. Nous on est dessus. On est dessus là en ce moment. Alors c'est sûr que gros avantage. Gros avantage chez nous, puisque nous on a l'avantage d'être hispanophone. On en profite vraiment pleinement en VO et comme toute série, le sous-titrage fait perdre quand même pas mal de jeux de mots. Là on les récupère. Et franchement, une très très bonne surprise. Que je conseille à tout le monde, un petit huis clos hyper sympa.
Pareil.
Il y a des gros raccourcis dans le scénario, il y a toujours cette espèce dans les enquêtes, ils mettent un coup d'informatique parce que ça leur solutionne des problèmes, ça permet de faire avancer le truc. Je dis pas que c'est parfait, loin de là, mais clairement, si on était capable d'arriver à ce niveau-là en France, quand Netflix file du pognon à quelqu'un pour faire une série plutôt que de se taper Marseille, franchement, on serait vraiment, vraiment, vraiment très, très content. Et alors, a priori, moi, je suis rendu qu'à la moitié de la saison 1, mais enfin, de la première partie, parce que finalement les deux saisons sont dans une seule saison, ça s'arrête de ce que j'ai compris à la fin de cette saison là. Si c'est le cas, en plus chapeau, parce qu'on a besoin de séries comme ça qui savent s'arrêter et dire voilà, on avait ça à raconter, on l'a fait, maintenant basta, vous ne nous reverrez plus, quoi. Donc j'ai pas fini, mais allez-y, quoi.
Pareil. Je suis d'accord, c'est vraiment bien,
je l'ai pas noté encore,
et en plus ils ont vraiment des bonnes idées, je trouve. Déjà qu'on n'a pas vu ailleurs.
Exactement, c'est original, ils ont des tronches,
il y a des surprises,
tu vois presque pas un mec connu et ça fait du bien.
Ouais, aucun connu, hein, les...
Et puis en plus, si tu connais un peu le cinéma espagnol, s'il y en a un ou deux qu'on a déjà vu, mais
l'actrice principale, elle sort nulle part, hein. Ils ont pas grand chose à leur actif, quoi. Non, vraiment une bonne recours, enfin une bonne découverte pour moi. Julien, Christophe,
qu'est-ce que je regarde, moi?
La Casa des Papel.
Ah si, il y a une série que j'ai regardée sur Netflix également, une série graphique, comme ça qu'on dit, c'est Big Mouth.
Ah oui, j'ai vu passer le truc, ça me
alors c'est assez trash, hein.
C'est ce qu'on appelle les dessins animés pour adultes, quoi.
Ouais, c'est pas pour les moins de 18 ans. Et parfois ça va vraiment très très loin, mais vraiment j'ai trouvé que c'était un humour, autant il y avait des séries dans ce genre là où j'ai vu des très bonnes critiques et finalement ça m'a vite gonflé,
genre Archer,
Archer j'ai pas essayé,
la
mais
tête de cheval, Horseman, machin.
Ils ont fait lui un pédro là dessus qui est fan de ça, Bojack Horseman.
En fait j'en ai essayé 2-3 en même temps, il y avait aussi Marty, enfin
Rick et Morty. Bon,
Rick et Morty,
moi ça je trouve ça excellent,
c'est sympathique, mais
c'est pas ma came, mais j'aime bien,
ça va,
tout ça c'est pas ma
came, c'est assez débilisant par moment, quoi. Alors que Big Mouth, en fait, il y a vraiment le côté adolescence, avec les hormones qui travaillent,
ah,
et avec un humour qui ouais. n'est pas toujours si trash.
Alors à partir de quel âge avec lequel de tes enfants tu
ouais c'est ça ça te rapproche de tes enfants toi.
Ok.
Ça lui permet de décompresser par rapport à son ado.
Mais ce qui est assez marrant aussi dans la série, c'est que parfois ils se moquent de Netflix alors qu'ils sont
ah
produits
oui, ça,
par
c'est
Netflix
marrant, ouais. Ça, c'est
et
cool.
Puis et puis le côté trash parfois ça peut me saouler mais là c'est souvent bien vu et enfin t'as l'impression de voir une sorte de Friends mais sans censure quoi.
Donc on attend ta critique et ta note sur qui filme.
Bien sûr. Je m'attendais à cette remarque.
Bah ouais, bien sûr. Ouais. Julien,
moi je vais faire rapide sur deux petites séries que j'ai vues dernièrement que je trouve pas mal du tout. Il y a Mars d'abord, qui est en fait une série que j'ai découvert là cette année.
Ah, qui mériterait un débat elle tout seule aussi.
Qui est de 2016 mais qui est très très bien.
C'est celle qui sort de Sneakers.
Voilà, celle-là on va la laisser.
Excusez-le, il fait ça souvent.
Ouais, très rapidement sur Mars, en fait, c'est la conquête de Mars, mais ils ont pris un parti un peu bizarre, c'est que chaque épisode, en fait, t'as une partie fiction où tu vois une équipe chargée d'aller s'installer sur Mars et de commencer à créer une colonie, pardon. Et une autre partie de la série qui est s'entrelacer, où en fait, c'est des interviews de gens actuels, d'acteurs actuels de la conquête spatiale, comme Elon Musk. Comme des gens comme ça, comme des gens de la NASA. Et du coup, les deux sont mixés ensemble pour faire une série complète. Et c'est une mini-série, et moi j'aime assez les mini-séries parce que je déteste les séries où tu attends la fin sans qu'elle n'arrive jamais. Voilà, ça c'était la première série. La deuxième série, qui n'est pas connue du tout, qui s'appelle The Looming Tower, qui est une série policière américaine et qui reprend les événements avant le 11 septembre 2001 sur l'espèce de guerre de clochers qu'il y a eu entre le FBI et la CIA.
Et c'est également une série Netflix, non ?
Non, pas du tout. Non, elle est assez dure à trouver.
J'ai l'impression qu'on parlait que de série Netflix.
Non. Et il y a de très bons acteurs dedans, dont le français Tahir Rahm.
C'est vrai qu'il n'est pas diffusé.
Oui, c'était Tahir Rahm, je crois, celui qui jouait le rôle principal dans Un Prophète. La série est très bien, les acteurs sont très bons. Et pour ceux qui aiment du policier, c'est très très bon.
Comment ça s'appelle ?
The Looming Tower.
Ok,
avec l'accent.
Ouais, juste petit rebond sur la série Mars, parce que moi j'ai beaucoup aimé également. Sauf que son plus gros avantage devient son plus gros inconvénient. C'est ce mix interview-fiction.
Fait que tu rentres pas dedans.
Et même en fait, à la fin, les mecs en interview, ils ont un peu plus rien à dire au bout d'une saison. Et c'est genre, bon, ok, maintenant c'est bien, taisez-vous, mais laissez-nous profiter du truc. Ouais. Parce que la partie exploration est vraiment géniale.
Un petit peu, je suis pas aussi catégorique que toi, mais c'est un peu vrai.
Et effectivement, donc je retire ce que j'ai dit, The Looming Tower, qui est diffusé sur Hulu et pas sur Netflix.
Sur quoi ?
Hulu.
HULU.
C'est une colle, non ?
Ouais.
Non, c'est UU. Ok, d'accord. On enchaîne, on passe au jeu. Ouais. Christophe ?
Oui.
Christophe qui nous présente 7ème continent et Julien et moi avons fait nos devoirs pour pouvoir en parler avec toi.
Bah oui, parce que comme c'est pas un jeu parmi les plus connus, il est assez récent.
Enfin, c'est quand même une des grosses actualités du moment. Oui. C'est pas un des plus connus, mais
Fait deux ans qu'il fait l'actualité.
Ah mais j'ai l'impression qu'il en a...
Donc il devrait être connu.
Ouais, mais il en a presque plus fait parler dans sa deuxième édition que dans sa première. Mais on...
Ouais. Alors, bon, 7ème continent, c'est un Kickstarter, d'abord. Donc on ne peut pas le trouver en magasin.
Dans son deuxième pledge, du coup.
Son deuxième pledge. Enfin, j'ai profité du deuxième pledge. Je n'ai pas profité de l'extension, parce que j'ai lu qu'avec la première extension, tu pouvais déjà jouer à un grand nombre d'heures sans t'ennuyer. Et puis, bah, ça faisait un petit peu cher au total. Et je voulais déjà voir si ça me plaisait.
Alors, ouais, parce que précision quand même sur 7ème continent, on est sur du gros jeu réservé aux joueurs. Quoi.
Ouais. Oui, alors ça, on va y revenir. Moi, j'ai un avis sur ce sujet. En tout cas, pour revenir justement sur le contexte. Oui,
Glenn ? Pour là, pour les 5, garde ta tête orientée vers là. Parce que dès que tu vas te tourner vers là, on va.
Ah, d'accord. Merci, Glenn. Ok, bah on coupera au montage. Pour revenir sur le contexte, c'est un jeu collaboratif et c'est un jeu immersif. Alors c'est important à mes yeux parce que c'est vraiment la tendance du moment depuis plusieurs années. Alors j'ai envie de dire, Guillaume, depuis Andorre, hein, quasiment, où il y a des gens... c'est vraiment
collaboratif,
depuis... Oui, collaboratif. Ouais. On en trouve vraiment
collaboratif,
beaucoup...
narratif. Parce que Andorre, il est narratif, hein,
plus qu'immersif. Mais on a beaucoup de jeux maintenant, tous les ans, qui sortent, qui sont des jeux collaboratifs. Et maintenant, je trouve qu'on a de plus en plus de jeux qui sont immersifs. Et ça, j'aimerais qu'on y revienne. plus tard, peut-être à la fin de ma petite chronique, parce que les jeux immersifs, je pense qu'on pourrait faire un article sur ce sujet. Bon, enfin bref, j'y reviendrai. Donc, le thème du septième continent, c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu d'aventure, d'exploration, de survie. À la base, les créateurs ont voulu essayer de se rapprocher des livres de notre enfance. Les livres dont vous êtes le héros, les romans dont vous êtes le héros. Ça vous dit quelque chose ? Maintenant, ils sont publiés dans la bibliothèque verte.
Ouais, je les ai tous.
Mais
quoi, c'est une bibliothèque verte maintenant ? Loup solitaire ou défi fantastique ? Ça dépend.
En fait, ce qu'on aime dans ce genre de principe, c'est la liberté. C'est le choix. C'est quelque chose que finalement on a assez peu finalement dans les jeux. C'est-à-dire que souvent le jeu est dirigé par la stratégie, la volonté de gagner, la concurrence. Alors que là, il n'y a pas de concurrence, on est en concurrence contre le jeu. Et en plus, le jeu nous vaut peut-être du mal parce qu'on risque de perdre. Mais on ne sait pas. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment. Il peut être très long. Et en fait, on se sent assez libre de faire un peu ce qu'on veut. On a une liste d'actions qui est assez phénoménale. En fait, le principe, c'est justement d'avoir à tout moment le choix, chacun son tour, avec beaucoup de liberté d'ailleurs, de faire des actions. Les actions, ça pourrait être des choses assez classiques dans un jeu d'aventure comme se déplacer, explorer, examiner. D'ailleurs, ils fournissent une loupe dans le jeu, une petite loupe en plastique. C'est assez rigolo parce que ça nous permet comme ça de regarder les cartes avec attention. Parce qu'on peut avoir des indices sur les cartes. On peut avoir des indices sur le type de flore, sur les traces d'animaux, si on peut y chasser, ou alors on va y trouver un numéro caché.
Ouais, c'est vrai qu'il est très exploratoire à ce niveau-là.
C'est clair.
Dans la découverte de l'univers autour de toi et dans les détails. Donc ça, c'est bien, ouais. C'est bien fait. Ouais.
Donc, aventure, survie, c'est vraiment les choses qui ressortent le plus au départ. En fait, moi, j'ai fait 3-4 parties, j'ai dû jouer déjà 8 heures sur ce jeu. Beaucoup de gens, sur une seule partie, ont déjà joué 20 heures, ont sans doute beaucoup plus de choses à dire que moi. Et au final, on sait tellement pas où on va que même si je parle du jeu, je connais déjà les règles. Moi-même, je sais même pas où je vais. C'est-à-dire que je sais même pas quelle est la finalité. Je sais même, je suis même pas sûr d'avoir compris.
Là, tu le vends pas là.
Non, mais je sais même pas
d'avoir. La prochaine, je vous parlerai d'une BD que je n'ai pas lue.
Si, non mais c'est pour expliquer le. En fait, le succès de ce jeu vient de ce côté-là justement. C'est le fait qu'il soit très long et très fourni, très large. C'est-à-dire que les créateurs du jeu ont fait un énorme travail.
Il est disruptif, tu vois, sur cet aspect-là.
Ils ont fait un énorme travail. Oui, c'est un jeu, on ne peut pas comparer à autre chose.
Okay.
Moi, si j'ai eu envie de l'acheter, si j'ai eu envie de participer au Kickstarter, c'est parce que j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui disaient que le jeu, c'était une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne ressemble pas à un jeu. Donc, tu te dis, mais moi, j'aime beaucoup les jeux. Et j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup être
les massages,
happé. Oui, aussi. Et je voulais, effectivement, le fait de vivre une aventure comme ça, c'est tentant, quoi. On se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est à double tranchant, en fait. C'est-à-dire que soit tu es pris par l'histoire que tu connais pas, l'histoire que tu vas construire, soit tu vas dire, c'est trop long pour moi. Parce qu'en fait, il y a un système de sauvegarde dans ce jeu. C'est obligé. Tu ne peux pas faire une partie entière parce que tu ne sais pas si elle va.
Tu peux le faire.
Si
tu es vraiment motivé, quoi.
Non, mais en une seule session. Tu ne peux pas faire la partie entière en une seule session. Parce que la partie.
Du coup, j'ai rien à faire pour les vacances.
Non, ou alors il faut faire une journée entière consacrée à ça. Mais c'est peut-être l'élément qui va être le plus décourageant. C'est en ça qu'il n'est pas familial.
Ouais.
Et. Par contre, tu fais des sauvegardes et les sauvegardes sont vite faites.
Pas familial, je dirais pas ça. Par contre, du coup, pour avoir fait une partie, on a fait une partie
très longue.
Un début de partie,
3 heures, quoi. Seulement début de partie.
Je dirais pas qu'il est pas familial. Je pense qu'une famille qui est habituée un peu à jouer peut tout à fait jouer avec.
Ah ben, j'ai joué avec mes enfants.
Voilà, tu joues avec tes enfants.
Mais c'est ce que je disais l'autre fois encore à Guillaume, c'est que, par contre, quelqu'un qui a rarement touché les jeux de société et qui se dit bah tiens je vais aller m'acheter un bon jeu et puis un truc un peu plus chiadé, un peu moins connu, etc., il ira pas vers Septième Continent.
Oui, mais ces gens-là ne vont pas acheter un jeu sur Kickstarter.
Alors il y a cet aspect-là et puis
enfin, il faut le dire, on est là aussi pour le dire.
Ouais parce que en dehors de l'aspect Kickstarter qui fait que clairement les familles les découvreurs de enfin du monde du jeu de société vont pas aller dans ce jeu-là, mais sinon ils vont en boutique, ils vont pas le trouver. C'est aussi pour ça que le jeu n'est pas en boutique.
Alors ça veut dire que le jeu ne sera pas en boutique.
Ah, le jeu ne sera pas en boutique.
À mon avis,
il y a pas d'a priori, c'est assumé par les auteurs.
Il y a des jeux Kickstarter qui sont en boutique.
Kickstarter, ça a un début et une fin, donc on ne peut plus l'acheter.
Ah, on peut plus l'acheter.
Ah oui, d'accord.
Tu l'achètes
et là,
d'occasion.
Le deuxième pledge, donc là moi j'ai écouté un peu d'ailleurs sur le podcast de la radio des jeux, qui est un excellent podcast sur le jeu société que je vous conseille. Ils ont reçu donc les créateurs de Septième Continent, et donc il n'y aura pas de troisième pledge, et il sera jamais en boutique. Il sera jamais en boutique pour deux raisons. Il sera jamais en boutique parce que en fait c'est un jeu qui a un nombre de cartes hyper conséquent, donc il y a un coût de production qui est pas faible, et du coup passer en boutique ça veut dire passer par distributeur et ça veut dire passer par des boutiques, donc à chaque fois c'est des mecs qui prennent de la com, donc soit le prix en boutique serait beaucoup trop cher pour la cible des boutiques, soit ils rentreraient pas dans leurs frais. Donc en fait en faisant un Kickstarter financièrement ils ont une certaine logique, et puis le deuxième élément qui fait qu'il reviendra pas en boutique, c'est que ce serait pas juste entre guillemets pour les gens qui ont payé le Kickstarter et etc. Donc, c'est un point de vue, hein, c'est le leur, c'est ce qu'ils avancent en interview.
Voilà, en fait on est en train de faire la critique d'un jeu où si on donne envie on peut pas l'acheter. C'est trop tard.
Si vous êtes joueur et que vous voulez jouer à Septième Continent, effectivement là maintenant faut prendre un peu votre mal en patience et attendre qu'il arrive sur le site d'occasion.
Sinon je laisserai mon numéro de téléphone et
sinon je pense sur les jeux de société c'est intéressant de dire à combien ça se joue.
Alors ça se joue. Ça peut se jouer en solo, je pense que ça a même été conçu à la base pour être en solo.
Ça marche. Collaboratif.
Non, mais en fait, parce que quand tu ouvres un livre dont vous êtes le héros, tu le fais en solo. Mais ils ont ouvert les règles de manière à ce que tu joues à plusieurs.
En fait, c'est un peu
ça. Ça marche très bien à deux.
C'est marrant parce que dans le monde du jeu, c'est souvent l'inverse. Un mec invente un jeu, puis il se l'imagine directement à 4 ou à 5, enfin, assez nombreux. Et après, ils adaptent les règles. Souvent pour passer à 3 ou 2 joueurs, ce qui fait des versions de 2 ou 3 joueurs qui sont assez pourraves, ou un peu ratées. Non, moi je veux pas. Le truc où chaque joueur fait 2 personnages, oui, tu vois, etc., bah, etc. Et là, on est sur une démarche qui est complètement opposée de mecs qui ont fait un jeu 1 joueur et qui ont dit maintenant vous pouvez jouer à plus. Et clairement, le jeu, c'est ce qui ressort à peu près partout et ce qu'on voit là, c'est qu'il prend toute son ampleur à 2, 3 joueurs. Mais au-delà, ça devient carrément le bordel, quoi.
Ah, il faut le touch. Ouais. Mm-hmm. Il y a le touch aussi là-dessus.
Alors, en fait, tous les jeux collaboratifs ne demandent pas toujours autant de communication entre les joueurs. Et moi, ce que j'aime dans un jeu collaboratif, c'est quand on a vraiment le sentiment de devoir discuter avec les autres et de prendre des décisions ensemble.
Alors attention, parce que oui, mais par contre, il tombe clairement dans le piège du King's Pitcher.
Du
leader.
King leader.
Oui, tu dis ça parce que c'est ce que j'ai fait la dernière fois.
Non, parce que c'est le défaut de tout jeu collaboratif. Oui, mais non.
Mais ce que j'ai pu comprendre de Septième Continent, c'est que pour réussir, il faut vraiment rester soudé. Il faut rester le plus possible ensemble et prendre des décisions ensemble.
Faut rester soudé.
Et vraiment discuter.
Ouais, soudé, ouais.
Et surtout, soudé, pas soudé.
Et surtout ne pas avoir Julien dans son équipe, parce qu'il faut savoir que Julien prend toujours les mauvaises décisions. Mais toujours. Alors, quoi.
Absolument pas, parce qu'il y a une part de chance dans ce jeu, et juste pas de chance. C'est pas une question de décision.
Mais si on joue à Koh-Lanta, faudrait pas prendre Julien.
Non, pas du tout. Alors, non. Julien, il va dans le marais. Le truc où c'est genre, tu regardes un film d'horreur, c'est n'y va pas. Julien, il y va. Okay. Et après, il est bloqué dedans. Alors, donc toi, tu trouves un trésor qui te fait gagner le jeu, tu vois. C'est...
Est-ce qu'on parle un petit peu de la mécanique du jeu ou pas?
Ouais, non, mais présente plus le jeu, j'arrête de te couper.
Ouais. Alors, pour présenter le jeu, alors en 2 minutes, quand j'ai voulu vous expliquer les règles, j'avais dit que c'était en 5 minutes, et vous m'avez dit que je tenais pas 5 minutes, donc là, je vais expliquer le principe en 2 minutes. On incarne un personnage en 1907 qui doit explorer un continent, et le but du jeu, c'est de se libérer d'une malédiction. À chaque moment, on peut faire une action, et les actions, en fait, sont faites en piochant des cartes dans un deck d'actions qui est commun. Le deck d'actions est constitué de 45 cartes au départ. Et lorsque on n'a plus d'actions dans le deck actions, on n'a pas perdu, mais le deck actions, en fait, représente notre énergie, notre vitalité de groupe.
Et j'ai envie de te dire, c'est là qu'il faut que tu t'arrêtes.
Oui, mais
dans l'explication du
jeu. Je conclue.
Même quand tu
en disant que voilà. Quand on a épuisé le deck action, là on commence à avoir un peu peur, on n'est pas loin de perdre et on peut perdre d'un coup. Alors justement là je vais c'est la transition par rapport à la petite critique que je pourrais avoir du jeu pour le moment. Il faudrait que je joue encore beaucoup d'heures pour avoir une critique plus conséquente, mais je pense que le jeu peut être assez décourageant. C'est-à-dire que on peut trouver le jeu passionnant et immersif et jouer à la même partie pendant 15 heures et perdre. Et on refait la même partie avec les mêmes personnes, ouais, on rejoue 10 heures et on repère.
Sauf que tu pars de la sauvegarde, donc tu rejoues pas 10 heures.
Non, ce que je veux dire, je parle d'une fois que tu as perdu et que tu recommences.
Si tu parles de ta dernière sauvegarde.
Ah ouais. Ouais.
Tu parles de ta dernière sauvegarde.
Ouais, mais je pense que pour le coup, l'énigme à résoudre n'est pas forcément. Enfin, c'est bien sûr le but du jeu, mais c'est vraiment conçu pour
découvrir.
Ouais, voilà, ouais, parce que je sais pas si tu l'as dit, mais en fait c'est des cartes qui modélisent une zone et t'as plusieurs cartes autour et au fur et à mesure tu vas découvrir des cartes et ton monde va s'agrandir ou changer, etc.
Ça c'est un jeu de geek aussi, hein, parce que on retrouve le brouillard de guerre des jeux vidéo. On essaie de à chaque fois.
On dirait Turok, très univers Turok. Vous vous rappelez de Turok, premier gros jeu vidéo 3D où en fait tout était dans le brouillard parce que clairement les ordi de l'époque n'avaient pas la. Le Turok à l'époque avec le moteur 3D et le brouillard qui empêchait d'aller voir loin était vraiment.
J'aimerais aussi pour finir, c'est faire comparer ce jeu à d'autres jeux. Parce qu'on dit que c'est un jeu qui est novateur, il est incomparable, mais on peut quand même le comparer à d'autres jeux. Alors, je vais vous laisser la parole sur ce sujet, mais moi, au début...
C'est pas toi qui donne la parole, Pierre, c'est Guillaume.
Ok, bon, alors Guillaume, tu laisseras la parole sur ce sujet, tu m'interromps si tu veux. Alors, c'est marrant parce que deux semaines avant d'avoir reçu le 16e continent, j'ai eu l'occasion de commencer à jouer à Vendredi, un jeu solo de Friedemann Friese. Donc là, c'est un vrai jeu solo. Un vrai jeu solo, jeu d'aventure... Et il y a un petit côté stop ou encore où on va épuiser notre stock.
Alors j'aurais d'action. Jamais comparé les deux quoi.
Bah je sais pas, mais moi ça m'a sauté aux yeux parce que j'ai joué à ces deux jeux à 4 jours d'affilée. Et bien sûr c'est pas comparable parce que il y en a un qui est vraiment un petit jeu, l'autre qui est un gros jeu. Le fait que tu risques de perdre quand tu n'as plus la possibilité de jouer des cartes et que à chaque fois tu peux parfois aussi décider de perdre pour économiser ton énergie vitale. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant aussi. C'est que tu peux ne pas aller au bout de l'action. Ça peut être stratégique.
Ouais, mais est-ce que c'est pas frustrant, quoi ? Est-ce que c'est pas une non-action frustrante ?
Non, à aucun moment je vais trouver ça. J'ai trouvé le jeu frustrant. La critique que j'ai eue au début, c'est pas qu'il était frustrant, c'est que. Les règles du jeu sont pas compliquées, elles sont nombreuses. Pas parce que, comme tu nous l'as expliqué, moi, même si tu me l'avais expliqué différemment, même si j'avais mieux compris les règles au début, j'aurais toujours eu cette sensation-là. C'est qu'au début du jeu, moi, j'ai eu un peu l'impression de jouer à Camoulox. Hein. C'est vraiment des règles dans tous les sens où non, tu peux pas faire ça parce que la crevette, elle est en Sagittaire et que. Et ça, au début, c'était un peu déstabilisant, mais c'est vite parti. C'est un truc qui a tenu, je sais pas, t'as eu même la même réaction
avec Guillaume.
Ouais, ça nous a tenu un quart d'heure où on nageait complètement dans les règles et on comprenait pas tout. Et après oui, la mécanique de jeu.
On a eu plusieurs fois la réflexion, je ne comprends rien. Par contre, c'est clair que tu l'as, alors ça pourrait t'agacer, et en fait, elle part d'un coup. Hein. D'un coup, tu démarres et tu rentres vraiment dans le jeu qui est vraiment exploratoire et t'oublies. L'aspect-là était vraiment dans cette idée. Je découvre telle carte, mais là, et tiens,
elle loupe. Alors, le jeu t'emmène, en fait. Le jeu t'explique les règles en même
temps. Attends, vas-y, Glenn. Glenn ne connaît pas le jeu, c'est notre participant qui a des questions.
Alors, déjà, j'ai plusieurs questions. Est-ce que. Donc, parfois, on meurt. Bon, voilà. Donc, on meurt. Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu ou est-ce que ça veut dire que ça s'arrête pour l'instant?
Alors, non, on meurt en équipe. Hein. Si on meurt, on a perdu.
On meurt en équipe, on a perdu.
Mais on peut reprendre la dernière sauvegarde
quand on redémarre de là. Est-ce que quand on meurt, quand on a perdu.
C'est une erreur.
Est-ce que tu as fait une partie
quand t'as perdu? Alors ça, je fais une parenthèse parce que tu as dit ça tout à l'heure et c'est une erreur. Quand on perd, on recommence tout à zéro.
Ah, autant
et
pour
ça,
moi.
Ça c'est justement une des critiques du jeu. Et j'ai lu sur internet une petite astuce qui me paraît intéressante.
Mais excuse-moi, mais qu'est-ce qui t'empêche de reprendre ta sauvegarde? Si t'as sauvegardé, tu l'as gardé, tu l'as, quoi.
Tu penses à Château Aventure quand tu penses
à ça. Ouais, je pense à Château Aventure, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça dans Septième Continent?
Rien, parce que c'est à toi de faire les règles que tu veux. Mais si tu prends ta sauvegarde, tu auras aussi.
Ah, t'auras tes échecs.
Moi, j'ai une intuition sur la réponse par rapport à ça. C'est que, à mon avis.
Dans le débat.
Oui, c'est déjà un trop gros débat, mais je vais répondre en 10 secondes. Revenir sur une sauvegarde précédente, c'est pas une bonne idée, parce que je pense que si tu as perdu. C'est que à partir de la dernière sauvegarde, tu as déjà perdu. Parce que en fait,
t'as possiblement déjà perdu. Je suis d'accord avec toi.
Mes questions, c'est est-ce que quand tu perds, parce qu'on a parlé d'expérience, ça c'est très intéressant. Voilà, est-ce que il y a des jeux qui vaudraient le coup d'être achetés juste pour ça, vivre un nouveau truc, comme quand tu vas sauter au parachute, je veux dire. Est-ce que même quand tu perds, t'as vécu une bonne expérience?
Ah, je pense. Oui. C'est pour ça que les gens y reviennent.
Clairement,
oui.
Est-ce que tu rigoles?
J'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires de gens qui disent c'est frustrant, très frustrant de perdre, et en même temps ils s'y rejouent.
Est-ce que tu rigoles si je suis là, tu rigoles.
c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que l'expérience de jeu change en fonction des gens avec qui tu joues?
Alors moi justement, c'est un point qu'on a débattu lors de la première partie, parce que c'est un point sur lequel Christophe nous expliquait les jeux, et c'est un peu le truc que je lui ai dit après la partie. Oui, parce que à condition aussi que la personne qui explique, qui maîtrise le jeu, sans critique à Christophe, hein, mais c'est aussi moi, parce que moi je me crée mon univers. Enfin, il faut laisser aux gens le temps. Et la façon de s'approprier le jeu. C'est-à-dire que tous les joueurs se l'approprient différemment.
Moi, je peux dire clairement que je fais partie de ceux qui prendront pas le temps.
Et moi, en y jouant à ce jeu-là, en fait, je me suis extrêmement rappelé souvenu de moi-même quand je faisais des jeux de rôle. Quand je faisais des jeux de rôle, moi, j'étais un joueur assez relou parce que j'ai une façon de m'approprier le jeu qui est très personnelle à coup de blagues et de décalages. Et j'ai reproduit ce comportement-là vraiment en jouant à Septième Continent. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je m'approprie le jeu. Je suis en train de m'approprier l'univers, etc. Cette façon de, on rentre un peu dans une, mais il a ce côté-là un peu jeu de rôle. Cette façon de dire à Julien, bon Julien, c'est un peu le gars, c'est le poissard, mais on va l'aider. Tu retrouves vraiment cette idée de jeu de rôle. On est dans la quête tous ensemble. Bon Julien, t'as encore fait de la merde, mais on vient t'aider, on fait ça tous ensemble. Donc voilà, c'est un jeu de rôle sur carte, c'est un jeu de découverte, un peu jeu de rôle. Tu te l'appropries et tu te crées l'univers qui va avec. Et ça,
en fait, honnêtement, moi je m'attendais à ce que ce soit un jeu où on s'en prend plus plein la gueule, en fait. Je pensais que c'était c'est un jeu difficile, c'est exigeant, et en même temps on pourrait dire que d'un autre côté il est assez facile, parce que tu fais toujours la même chose. C'est toujours la même règle.
Et je vais te faire conclure, parce que là on est en train de faire une chronique sur ce jeu qui est aussi longue qu'une partie de ce jeu là maintenant, si tu devais le noter, si tu l'as noté sur Gifim, combien tu lui mets?
Alors c'est pas simple, parce que j'ai l'impression que je dois continuer à jouer pour finir de le noter.
C'est une bonne façon de le dire, hein.
Ouais. Ah, moi je note rien avant d'avoir fait deux fois un jeu, c'est 2-3 parties.
Alors,
avant
pour
de
le moment
note,
hein. Je serais quand même plutôt à 9 sur 10, mais je teste beaucoup de jeux
C'est une note qui est dans le jeu, beaucoup à mettre en regard de ton caractère aussi. Ton profil.
Alors moi, j'ai un profil très joueur, j'ai un profil aussi où j'aime les jeux que le
Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut aller voir les autres jeux que t'aimes bien, etc.
Oui, alors justement, moi, je vais le comparer à d'autres jeux.
Allez voir le profil de Christophe sur Kifi.
Non, ouais, mais t'as 2 secondes là, t'as 2 secondes pour le comparer de jeu, parce qu'il faut qu'on switch.
Non, mais je veux dire, allez, voilà, c'est important que les gens aussi.
Non, mais clairement, sur les films,
alors,
sur les séries.
Je voudrais comparer un jeu que j'ai pas encore testé, mais qui est un jeu. This War of Mine. Parce que c'est un jeu qui.
Dont tu nous parleras le mois prochain.
Et je voudrais aussi le comparer à Terraforming Mars. Parce que c'est quand même les deux gros jeux de l'année. Enfin, depuis 6 mois, on parle toujours de Septième Continent et Terraforming Mars.
Et c'est tout.
Et voilà. Donc, c'est des jeux que j'aime beaucoup.
Tour de table rapide sur les jeux hyper rapides. Glenn, t'as joué un truc?
Ouais, moi, très très bonne expérience. Quand je vous parlerai de jeux, souvent, ce sera avec les jeux qu'on peut jouer avec des enfants, et surtout des enfants qui n'ont pas le même âge. Et Christophe pourra peut-être comparer aussi ça.
Ouais, ouais.
Nous, on prend un grand, grand plaisir. Alors, Gang Rush, là, on en parlera peut-être. Et puis, Queen Domino, valeur sûre, quoi.
King ou Queen?
Queen.
Queen Domino.
Queen Domino. Tu l'as acheté, du coup?
J'ai les deux, ouais.
Donc là, j'attends que tu viennes
faire essayer celui-là. C'est top.
Ok. Julien?
Moi, j'aime bien les jeux avec les mécaniques simples mais efficaces. Dominion fait partie de mes fétiches. Isle of Skye, qui est un dernier jeu que j'ai acheté, qui est une mécanique toute simple mais qui marche très très bien, quoi.
Ouais. Moi, j'aurais pu parler, tu vois, dans l'esprit découverte de Château Aventure, Mais je crois que Château Aventure, il mérite...
qui est buggé, hein.
Qui est buggé, par contre. Non, mais il méritera une présentation à part entière.
Parce que c'est original.
Parce que c'est original, et puis il faut le creuser. On est encore un peu dans la même chose que 7ème Continent, sur l'aspect jeu de rôle, découverte, etc.
Absolument.
Non, du coup, ma bonne découverte, qui n'est pas du tout une actualité ou quelque chose de récent de ces derniers temps, pour le coup, c'est Seven Wonders Duel, qui est sorti il y a quoi, il y a 2 ans maintenant.
Non, plus que ça, 4 ans.
Et ouais, bon, tu vois. Et alors moi, ça fait quoi?
Le podcast, vous êtes présenté par Banania.
Ça veut dire que ça fait 5 ans, je sais pas, que j'ai Seven Wonders de base et que j'ai pas voulu jouer à Seven Wonders Duel en me disant c'est pas possible, Seven Wonders est trop bien, il est trop fait pour être joué à plein, que le duel ça va pas marcher.
Le duel est plus simple.
Et non, c'est pas que la question soit plus simple. C'est
ils ont réussi le.
Ouais, ils ont réussi le truc. Ils ont assez modifié le truc pour que ça marche. C'est-à-dire que le gameplay est changé vraiment. Il est adapté à 2 joueurs et ça marche bien. Par contre, ils ont hyper gardé l'univers et la logique de jeu, ce qui fait que t'as un jeu qui marche bien et qui reprend qui est dans la droite ligne d'un seul Wonders.
Il aime bien parce qu'il me bat.
2 fois. Donc on reprend. Merci Christophe pour la présentation de 7ème Continent, qui a généré pas mal de discussions, mais je pense qu'il y avait largement matière à. Donc, voilà.
C'est de l'audio, hein, Christophe.
Bon, ouais,
je vais montrer les règles, personne ne les verra.
Un jour, on le prend en chaîne YouTube.
Ouais, tu verras. Pareil,
non, on en parle.
Donc, t'as 5 minutes.
Donc, on parle. Non, pas maintenant. On continue avec Glenn. On recommence avec Glenn qui nous présente un livre, une BD en l'occurrence, Tyler Cross, une nouveauté.
Ouais, Tyler Cross, 3e opus des aventures de ce malfrat gangster, mec abîmé par la vie, mais auquel on s'attache quand même, c'est le anti-héros de base. Donc, clairement, la BD peut se lire toute seule, mais je conseille clairement de reprendre à zéro, c'est-à-dire avec le premier opus qui se passe au Texas, bien dégueulasse.
Ah donc c'est ça, c'est des épisodes, c'est pas du tout un tome 0 ou un tome 1,
non,
ça.
Miami, c'est la suite, mais qui peut se lire indépendamment.
D'accord.
Le deuxième épisode se passait en Angola, au bagne, dans la boue, la pluie, la nuit, tout ça, mais c'est magnifique.
Ouais.
Le dessinateur, c'est Bruno. C'est un duo d'enfer. Je veux dire duo parce que c'est un duo comme il y a eu des duos Charlie Giraud, comme il y a eu des duos Van Ham, Vance, machin. Ils se sont trouvés, les mecs. Franchement, ils se sont trouvés. Donc, Nuri, le scénariste, je le connais pas beaucoup plus que ça. Mais Bruno, lui, c'est lui qui a signé Nemo, Inner City Blues, Biotope, Commando Colonial, Junk, Atargul, Lorna, que des trucs que vous trouvez chez tous les bons libraires. C'est du.
Enfin, il faudra qu'on remette en commentaire de la critique du podcast, là, parce que
peut-être.
T'étais à fond, là.
Donc, en gros, l'histoire, c'est Tyler. Il veut récupérer son pognon, donc il revient à Miami. On change de scène, on change de décor, ça aussi ça fait voyager. Il veut récupérer son pognon, en gros on lui doit 700 000 balles, un truc comme ça. Il va voir son avocat qui était censé lui avoir mis ça de côté, et en fait le mec qui pensait que Tyler était un peu mort a investi ça dans l'immobilier, mais dans un truc un peu en plus véreux quoi. Et donc Tyler va devoir se frotter aux mafieux, aux mecs corrompus, mais aussi au FBI, enfin il n'y a rien qui lui fait peur quoi. C'est énormissime. Tiens, vous pouvez regarder un petit peu la BD pendant que, que je parle. Alors Bruno, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est ce qu'on appelle la ligne claire en BD. La ligne claire, vous savez, c'est quand on dessine au trait noir un peu tous les traits et que chaque couleur est séparée en fait hein, par un trait noir qui est souvent égal. Tu vois, il y a pas des pleins, des déliés, machin, milieu. C'est ce qui était un peu amené par Hergé avec Tintin et puis Black et Mortimer dans ces endroits-là quoi. Donc ça c'est la couleur en aplat là-dessus, c'est un travail de Laurence Croix, c'est incroyable quoi. Tu vois, quand tu vois des trucs comme ça et que t'es pas choqué par une mer jaune, c'est juste qu'il y a quelque chose d'hyper réussi quoi. Et derrière, juste à côté, elle te met une planche toute en violet, c'est somptueux quoi. C'est un gros travail énorme. Et ce que j'ai adoré là-dedans, c'est que c'est un film dont tu tournes les pages quoi.
Ouais.
Et d'abord, t'as beaucoup de trucs un peu en cinémascope. Et c'est clairement inspiré, enfin ça vient clairement du film noir des années 50, 60, 70, qui lui-même venait de l'expressionnisme allemand, donc c'est pour ça que tu trouves un clair-obscur hyper bien foutu. T'as des fois, regarde ça,
ta description,
c'est persienne, ces trucs, c'est...
Bah oui,
Bruno est extrêmement influencé par les, par les Américains qui font du noir et blanc, Frank Miller et compagnie. Et puis les films de la Warner des années 30, voilà, un jour on en reparlera. C'est magnifique. Donc là, le film noir de ces années-là, c'est le personnage enfermé dans une situation qu'il subit avec trahison, meurtre, crime, infidélité, jalousie. On a tout ça là-dedans. C'est un peu comme, alors, j'ai cité Le Faucon Maltais, voilà, de John Huston, ou La Soif du Mal d'Orson Welles, qui est un peu plus proche de nous. Ouais. Donc le découpage magnifique, ancrage superbe, couleur géniale, et alors les personnages, mais c'est juste, franchement, t'es en train de regarder un film, quoi, et t'as envie que ça devienne, enfin, moi je suis prêt à parier, si vous l'aurez entendu ici, d'abord, que Tyler Cross va être adapté au cinéma d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc voilà, je m'attarde pas beaucoup plus là-dessus, c'est à lire impérativement.
Et du coup, question, parce que du coup il y a plusieurs tomes, ok. Et ils sont liés entre eux, on peut les lire. Faut lire les autres, faut lire dans l'ordre, faut lire dans le désordre.
Ça, ouais, ça se lit dans l'ordre parce que là il revient, quoi. Il revient après la galère qui lui est arrivée, les trucs machin. Donc,
si tu connais, faut que je récupère les autres.
Mais si tu prends la BD de comme ça, elle se tient toute seule sans problème. La couve là, c'est inspiré, si vous l'avez vu, de Le Plus Sauvage d'entre tous avec Paul Newman, 1963.
C'est le titre du film. Le Plus Sauvage d'entre tous.
Ouais. Ça s'appelle The Hood, je crois, en version originale. Mm-hmm. Et tout le, si tu veux suivre un peu cette même aventure que tu vois là, mais au cinéma, on est dans Luc la main froide, un petit peu dans les ambiances, ouais, dans les trucs, dans les machins. Enfin voilà, il y a que du bon. C'est un duo à voilà, suivre impérativement. Tyler, mais... tome 3.
Je suis pas tenté par la graphisme, mais.
Et alors, moi là, parce que du coup, j'ai été voir la fiche sur Kifim du. De la BD, et je découvre un truc, c'est que Nuri, c'est également l'auteur de la BD Il était une fois en France.
Il était une fois en France, ouais,
qui
absolument.
Est excellente.
C'est excellent.
Et que du coup, je voulais te intervenir sur ta critique pour dire, ok, Nuri, c'est génial, allez lire aussi Il était une fois en France, qui est vraiment excellente comme BD.
C'est vrai.
Voilà. Christophe, t'as fini, excuse-moi.
Moi, j'ai fini, c'est une, j'ai, je lui ai mis 9 sur 10.
Gros coup de cœur.
9 sur 10 sur Kifim. Pourquoi je lui ai mis 9 sur 10? Parce que je me laisse le soin, si le prochain est meilleur, de mettre 10 au prochain. Quoi. Okay. Sinon, j'aurais mis 10.
Christophe, une découverte, bouquin ?
Ah oui, alors j'ai acheté récemment un livre sans trop savoir ce que c'était, juste parce que c'était l'univers de Sherlock Holmes. C'est un écrivain anglais contemporain qui s'est amusé à faire un mélange entre Sherlock Holmes et l'univers de Lovecraft.
Oh, très intéressant. Bah non, mais ça tient la route.
Oui, et en fait, mais c'est ça qui m'a épaté, c'est en lisant. Mais,
comment
en
ça
fait,
s'appelle
Ça s'appelle Les Dossiers Cthulhu, bien sûr, hein, Lovecraft.
Ok.
Donc, c'est un livre, pas une BD. On est passé dans le livre.
Ouais. Mais alors, mais je l'ai dévoré. Et alors, là, c'est comme pour le cinéma, je peux être assez exigeant sur tout ce qui est fantastique, SF, etc. Ça m'arrive d'être déçu par du grand classique en bouquin, du genre. Comment s'appelle celui qui a fait l'original de Blade Runner,
Ridley Scott?
Non, je parle du livre.
Philippe K. Dick.
Philippe K. Dick. J'en ai eu plusieurs. Il y en a que je trouve géniaux et d'autres que je trouve décevants.
C'est assez inégal, je trouve aussi.
Ouais.
Je suis d'accord.
Et là, je trouve que ça faisait comme si c'était une imitation du style littéraire du 19e siècle.
Ok. Avec... Et ça t'a plu ?
Ah oui, vraiment. Okay. Vraiment.
D'accord, tu redis le titre ?
À fond.
Tu nous
les
deux
dossiers Cthulhu.
Okay,
et
d'accord.
Après, j'ai enchaîné sur, par contre, un parallèle, mais vieux, enfin 19e siècle, Le Roi en Jaune. Parce que comme j'aime beaucoup le jeu de société
Le Nain Jaune.
Horror Arkham, il y a un scénario de Horror Arkham qui est inspiré du Roi en Jaune.
Ah.
Et en fait, le Roi en Jaune, je pensais qu'il avait été écrit par Lovecraft, mais non, il a été écrit par un certain Chambers qui a inspiré Lovecraft.
Ah, et ça qui, j'adore, ça j'aime bien entendre.
Et ça a inspiré la série True Detective.
D'accord, bonne référence.
Donc True
Detective. Tu nous dis le titre aussi ?
Le Roi en Jaune. Et
le
alors,
Roi en Jaune.
C'est des nouvelles.
Ah, ouais. ça je suis tenté moi.
D'accord,
ça, je suis tenté. Toi ?
À moi ? Moi, alors moi, mon gros coup de cœur des dernières semaines en termes de bouquins, mais gros coup de cœur, c'est Prugne. Prugne, P-R-U-G-N-E, c'est son nom de famille, le gars. Je sais plus son prénom. Alors, c'est hyper contemplatif. Alors, c'est en fait, c'est une saga. Ça s'appelle, d'ailleurs, c'est regroupé sous un nom qui s'appelle la saga indienne. Qui suit, on va dire, l'épopée de quelques Européens au moment où, où l'Europe, enfin où les Européens viennent entre ce qu'est l'Amérique du Nord et le Canada, et c'est la création des villes comme Montréal et compagnie. Donc hop, il y a des histoires de guerre indienne. On voit c'est très très documenté. Donc on voit que les Indiens, c'était pas les Indiens, c'était plein de tribus indiennes qui se battaient entre elles, qui du coup faisaient qui faisaient des accords qui avec les Anglais, qui avec les Français, etc. etc. Tout ça, c'était extrêmement compliqué. Et donc les personnages naviguent au milieu de tout ça, c'est déjà assez intéressant. Et après, pour moi, le gros, gros, gros plus, c'est le dessin. Bon, alors après, moi, il faut savoir que je suis fan. Moi, je suis fan de Pratt. Moi, je mets 10 à tous les Corto Maltese, je suis fan absolu. Et là, Prugne, on retrouve donc de l'aquarelle, donc tout colorié à l'aquarelle, c'est magnifique. Certaines planches.
C'est couleur ou noir et blanc ?
C'est couleur. Certaines planches, c'est vraiment des œuvres d'art, t'as envie de les avoir en grand dans ton salon. C'est magnifique, magnifique, mais comme du Pratt, quoi. Okay, et du coup, c'est très contemplatif. C'est moi ce que j'adore dans la BD, c'est-à-dire que tu peux avoir une double page sans un seul phylactère, tu vois que l'image, quoi. Parce que
j'aime pas trop ça.
Tu vois, la position d'un Indien et tout, et surtout à la fin de la BD, de l'aquarelle annotée par l'auteur en disant voilà, recherche sur la position de l'Indien, est-ce que c'est bien ce que je veux dire, enfin du coup vraiment vraiment génial. Il y en a trois, j'ai dévoré les trois, gros coup de cœur, allez-y.
Ok, à moi. Moi, j'ai terminé il y a pas longtemps un livre que j'ai beaucoup de mal à trouver. C'est pour ça que je l'ai lu très tard après sa sortie. C'est tout bêtement Apollo 13, le bouquin écrit par Jim Lovell, qui était le capitaine de la mission Apollo 13, qui a eu les problèmes qu'on connaît, qui a eu le film qu'on connaît, etc. Donc tout le monde connaît.
Qui a participé au scénario du film ou pas, tu sais?
Du coup, qui a participé au scénario du film, il fait même un caméo dans le film à la toute fin. Voilà, je peux faire un spoiler parce que c'est quand même un vieux film. Quand vous voyez les astronautes descendre de l'hélicoptère sur le pont du porte-avions. Bon, après, c'est une histoire.
Comment il s'appelle cet acteur qui est mort là?
Tom Hanks?
Non. Très très grand acteur. Sam qui est ça?
Paxton. Bill Paxton.
Bill Paxton, oui.
Bill Paxton, et en fait, le capitaine du navire qui les accueille avec leur salama, c'est Jim Lovell.
Ouais, cool.
Voilà.
Et donc le livre,
et ben en fait, j'avais envie d'en parler tout de suite parce que c'est un bon exemple que le cinéma peut parfois faire mieux que la littérature dont elle s'inspire. Le bouquin est très bien. Évidemment, dans le film, on passe pas à côté des oublis qu'il y a dans le bouquin. Il y a un peu plus de choses dans le bouquin, il y a un peu plus de situations expliquées, ce qui est absolument normal. Mais finalement, le bouquin est un peu rébarbatif, presque mathématique, trop descriptif. Trop...
Et c'est pas parce que t'as déjà vu le film.
Non, parce que justement, je voulais lire le livre pour avoir plus de détails encore sur cette mission-là. Et j'en ai presque eu trop. Voilà. Ça manquait d'une écriture, ça manquait de quelque chose qui tenait en haleine. Et pour le coup, le film est meilleur. Bon, après,
c'est ce que les gens disent aussi de Ready Player One. Hein. C'est le film est largement meilleur que le bouquin.
Ouais. Bon, après,
j'ai un titre en tête qui m'a déjà fait exactement cet aspect-là. Et il ne me revient pas du tout. Donc, je n'en parle pas.
Ah, bah, j'en ai un autre, monsieur. C'est Blade Runner. Blade Runner, le film est meilleur que le bouquin pour moi.
Donc, je dirais pas lire le bouquin parce que moi, les films, déjà, j'ai du mal.
Le bouquin, déjà, c'est une nouvelle, quoi.
Ouais, mais en fait, dans le bouquin, si on veut parler de ça, Blade Runner, il s'attache beaucoup à la relation du héros avec les animaux mécaniques, artificiels, ce qui est un peu passé sous silence dans le film, et c'est tant mieux, parce que dans le bouquin, c'est tellement axé là-dessus, c'est tellement long, ces passages-là, que c'est un petit peu chiant.
Mais alors, si on parle des films qui dépassent les bouquins, de toute façon, tu peux parler de tous les Kubrick. Hein.
Oui.
Ok, on clôt là-dessus. En conclusion, déjà merci à vous de vous être prêté au jeu de cet épisode zéro.
C'est payé combien?
Rien du tout, en bière déjà, c'est pas mal.
Attends, moi je bois ma bière que j'ai emmenée la dernière fois.
De ce premier podcast qui filme, on va maintenant débriefer entre nous et espérer que et voir si on
que l'enregistrement a fonctionné.
Voilà, si on répète l'exercice pour un prochain épisode 1,
qui cherche à s'exprimer.
Épisode ouais, tant mieux. Épisode 1
ou 0.1, on sait pas.
On verra, ça c'est comme les numéros de version dans l'informatique, on sait pas à quoi ça sert de toute façon. Épisode 1 qui s'il y a lieu se verra un petit peu différent, ma phrase est nulle mais puisque normalement on aura donc un invité en la personne de Guillaume Genet, donc qui est président du festival Spoiler qui a lieu en avril à Rennes, festival de la série fantastique, le pendant série on va dire du festival de Gérard Mer.
Science-fiction et fantastique.
En espérant donc qu'on vous retrouvera à ce moment-là dans un mois À peu près, hein, je sais pas, pour l'épisode, le vrai épisode 1 du podcast, si on est satisfait de cet épisode-là. Et conclusion numéro 2, donc vous l'aurez compris, ce podcast est lié au site kifilm.fr, donc qui vous permet voilà. De critiquer et découvrir, on va dire, des films, des séries.
Si vous n'avez pas aimé nos critiques, vous pouvez nous retrouver dessus et nous foutre sur la gueule dans
mais
les
c'est
critiques.
Exactement le but du jeu, ou si vous les avez aimés, vous pouvez nous suivre et découvrir ce qu'on a apprécié également.
Moi j'ai dit qu'il fallait qu'on ait des pseudos. Hein.
Ouais, il faut qu'on développe un truc pour que tu puisses changer le tien, ouais. Et du coup, partie kifilm, parce que il faut parler un petit peu du site, mine de rien, on est là pour ça aussi. Je vais en parler pour dire que si vous avez tenu jusqu'ici, c'est vrai. Je vais en parler pour dire que je vais pas en parler parce qu'actuellement sur la version kifilm que vous pouvez voir en ligne, vous lui trouverez peut-être des défauts et du coup la grosse actualité kifilm, ce sera la prochaine version de kifilm. Qui, j'espère, sera paru.
C'est un vrai V8, puisque c'est la V8.
Et oui, c'est un vrai V8. La V, on sait plus combien, à force, parce que le film est vieux, il faut le savoir. Et donc voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de présenter un peu cette version-là dans le prochain podcast. Et prochain podcast, épisode 1, nouvelle version de Kifilm. À bientôt
salut,
à tous.
Salut tout le monde.
Merci à tous, salut.